En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio, la plus belle des radios d'Île-de-France en Val d'Oise, à écouter en FM sur 98.00, en web radio sur 98.fr, en DAB+ pour toute l'Île-de-France et dans le monde entier grâce à notre appli Android. Jacqueline Voraz avec Francky à la technique. Bonjour Francky. Jeudi 4 juin, notre équipe était présente avec Nae Kadiri, notre stagiaire chez IDFM Radio. Nous étions présents sur le salon professionnel de la CAPEB à Saint-Ouen-l'Aumône pour couvrir l'événement et réaliser plusieurs interviews d'exposants et de personnalités venues partager leur expertise, leurs projets et leur vision du secteur artisanal et du bâtiment. Des échanges riches autour de l'innovation, des savoir-faire artisanaux, des enjeux du bâtiment, de la formation et de l'emploi, des nouveaux partenariats. Merci aux exposants, partenaires et intervenants pour leur accueil et leur disponibilité tout au long de cette belle journée. Je vous souhaite une belle écoute.
IDFM Radio, le média valdoisien.
IDFM Radio est ravie de pouvoir couvrir ce salon à nouveau de la CAPEB à Saint-Ouen-l'Aumône. Et nous ne pouvions pas commencer cette émission sans avoir à notre micro Marie-Pierre Chalmel. Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour à vous tous.
Présidente donc du département de la CAPEB pour le département du Val-d'Oise. Un salon tel que vous le faites aujourd'hui, maintenant depuis 3 ans, c'est ça ?
6 ans.
6 ans, pardon.
6 ans.
Voilà, je suis bien en retard. C'est important.
C'est très important. Ça a de plus en plus d'ampleur. On bouge de plus en plus de monde. On réussit à interpeller de plus en plus de parlementaires, de plus en plus d'artisans pour des problèmes qui sont de notre quotidien. Je peux nommer que ce soit les déchets, c'est-à-dire la REP, que ce soit les ZFE qui sont en train de revenir sur la table, la difficulté de nos artisans. On va entre autres traiter de 2 thèmes tout à l'heure, la facturation électronique qui se prépare et ensuite les difficultés que les artisans peuvent rencontrer, qu'ils n'osent pas communiquer parce qu'un artisan ça doit se défendre tout seul, ça est fier et voilà, mais non, il faut leur montrer qu'on peut les accompagner, qu'il y a des aides parce que la conjoncture est très dure, très compliquée, moralement ils souffrent.
Oui. Alors le bâtiment évolue, les métiers se transforment et ce salon, je crois, en est une parfaite illustration.
Oui. Ça évolue dans le sens où la technologie évolue et donc ça suit l'évolution et ça permet à nos artisans de découvrir les nouveaux moyens, les nouvelles technologies. Je peux par exemple vous en citer une, c'est-à-dire il y a une personne qui a innové une nouvelle technologie pour pouvoir nettoyer les rouleaux de peinture sans polluer la nature, qui va dans le sens écologique de l'air du temps. Mais il y en a tout un...
Il y en a plusieurs et on va leur donner la parole tout au long du cours de ce salon. Hein.
Absolument.
Merci beaucoup Marie-Pierre Chalmel, merci d'avoir témoigné à notre micro.
Merci de m'avoir écouté.
Je vous en prie. Et donc, à côté de vous, nous avons Jean-Luc Saussois, président de la CAPEB Grande Couronne. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour, Jacqueline. Bonjour à toutes et à tous.
Merci de nous avoir permis de couvrir à nouveau ce salon à Saint-Ouen-l'Aumône. C'est toujours un honneur pour nous d'être à vos côtés. Alors, quel est l'objectif principal de cette journée organisée par la CAPEB Grande Couronne ?
L'objectif principal, c'est de passer. Alors déjà d'assister nos adhérents, hein, puisque on a besoin d'accueillir nos adhérents et les assister, que ça soit pour des offres commerciales vis-à-vis de nos partenaires, pour des offres de formation, pour connaître aussi de nouveaux partenaires, puisque aujourd'hui on a signé par exemple un nouveau partenaire qui s'appelle Tersen, qui va permettre aux artisans d'aller déposer des déchets, donc type gravats ou déchets industriels ou déchets type amiante, en petite quantité sur des plateaux techniques, avec un avantage commercial conséquent et dédié aux adhérents CAPEB, par exemple, mais aussi parce que lors de ce salon, ça nous permet de passer des messages aux élus présents, donc de la République en l'occurrence et de la préfecture. Donc les élus de la République, nous avons accueilli aujourd'hui une députée et un sénateur, et la préfecture était représentée par le sous-préfet d'Argenteuil, Monsieur Alavoine. Donc voilà, ça permet de passer des messages, ça permet de sensibiliser sur les points d'actualité et les points à venir, puisqu'on a par exemple sur la REP un gros point noir en fin d'année au 31 décembre. Donc il faut passer les messages.
Oui.
Il semblerait que les messages soient passés. Il y avait aussi, et je salue Madame la Présidente du Conseil départemental 95, Madame Kavecki, qui là, pour le coup, est aussi sensible, puisque son territoire est touché par les dépôts sauvages, par exemple, donc de déchets. Voilà, ça permet de voir tous les acteurs.
De sensibiliser.
Tous les acteurs, et de pouvoir échanger avec eux, de les informer, et voilà, toutes les parties.
Alors, dans le contexte économique actuel dont vous venez de parler, est-ce qu'il y a des défis particuliers rencontrés par les artisans du bâtiment en dehors de la REP, des déchets, des problèmes de déchets ?
Alors, on est clairement dans une phase très difficile pour divers points, parce que malheureusement, les trésoreries sont très tendues.
Oui.
Malheureusement, tout ça est aussi aggravé parce qu'on a une très grande frilosité des banques. Je ne me suis pas caché le dire derrière au représentant de la Banque de France 95 dernièrement, qui est d'ailleurs dans une salle derrière nous, mais aussi parce que les sociétés d'assurance crédit chez les fournisseurs baissent les cotes et donnent de moins en moins d'encours crédit client à nos artisans. Donc on est pris de toutes parts. On a évidemment une baisse de chiffre d'affaires, comme je l'ai dit ce matin, et on est pris en tenaille dans tout cela. Donc c'est une charge mentale énorme, je vous en ai parlé à la dernière
émission.
Malheureusement, ça ne s'améliore pas.
Ah oui. Pourtant, j'ai vu que, je vous coupe, mais j'ai vu que votre président national avait obtenu des beaux résultats.
Oui.
Là,
au niveau national, Jean-Christophe et les élus nationaux, dont je fais partie.
Monsieur
d'ailleurs.
Repon, félicitations pour cette nouvelle.
Non, mais c'est pour dire que je suis au courant. Et effectivement, il y a une action de fait, mais qui est une action après.
Ah oui.
Pour moi, c'est une action après. C'est bien, il faut aller, entre guillemets, secourir les gens qui sont en difficulté.
Puis ça montre votre vrai dynamisme.
Mais mon combat pour moi, je pense que c'est en amont. Il ne faut pas attendre que les gens soient en difficulté. C'est-à-dire que, pourquoi on est en difficulté ? Je viens d'énumérer les points. Il faut qu'on arrive à trouver des solutions à mettre sur la table pour que il y ait moins de tensions sur les artisans au niveau bancaire, pour qu'il y ait moins de tensions sur les artisans chez les fournisseurs, pour qu'il y ait moins de tensions aussi avec les salariés, parce qu'aujourd'hui, le salariat, il ne faut pas se voiler la face, il faut se dire les choses, c'est quand même compliqué, on a beaucoup de turnover, on a des gens qui ne sont pas forcément comme avant, comme il y a 20 ans, 30 ans, qui restaient dans une entreprise assez régulière,
toute leur vie,
assez longtemps. Aujourd'hui, vous avez un turnover qui est conséquent. Donc tout ça, c'est une charge mentale, et vous avez aussi des gens, des clients qui sont constamment sur les réseaux sociaux, qui vont chercher des infos vraies ou fausses, parce que les réseaux sociaux, excusez-moi, moi je vois ce que je lis, ce que je crois, la mer n'est pas plate. Donc il faut faire attention à tout ça, et on est pris dans l'étau de tout cet environnement. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut aller chercher des solutions pour moi en amont, et ça sera un de mes combats d'aller chercher des solutions en amont.
Oui. Alors quand vous parlez de turnover maintenant, qui est quand même assez important, ça nous amène à parler de recrutement et de formation. Votre salon accueille le CFA d'Hermont, puis d'autres CFA, donc vous mettez vraiment l'accent dans ce domaine. Comment attirer les jeunes vers les métiers du bâtiment, selon vous ?
Déjà, j'ai un constat, c'est qu'on n'est pas aidé par l'État.
Ah oui.
Donc, Monsieur le sous-préfet a parlé tout à l'heure d'un objectif d'un million d'apprentis sur le territoire national il y a 2 ans, parce que c'était vrai, je crois, en 2024. En 2025, on a déjà baissé, et là, en 2026, on va encore baisser.
Ah oui.
Et avec ce qui est annoncé Donc moins d'aide pour les CFA, moins d'aide pour l'apprenti. C'est-à-dire qu'il va toucher encore moins de salaire net. Il n'y aura plus d'abattement de charges. Tout ça, ça n'encourage pas l'apprentissage. On a pourtant des CFA qui sont pertinents, qui sont compétents sur nos territoires, mais malheureusement, qui sont actifs. Donc nous, on est dans le réseau BTP CFA Île-de-France, qui est un réseau paritaire. Mais on est coincé, une nouvelle fois, on est cadenassé par des décisions d'économie de budget. Où je suis désolé, moi je préférerais aider quelqu'un qui a envie de travailler et qui apprend un métier que aider quelqu'un qui est, excusez-moi d'être méchant, mais au fond de son lit. Alors je vais choquer, mais je pense qu'il faut aider les gens qui ont envie de travailler. Et en l'occurrence, on n'aide pas ces jeunes qui ont envie de travailler, qui ont envie d'apprendre un métier. C'est bien dommage. Voilà. Donc on est là avec BTP CFA pour montrer nos métiers et avec, je l'ai toujours dit, je le redis, pourtant des belles carrières parce qu'il y a pénurie de main d'œuvre qualifiée, main d'œuvre qualifiée. Et on a besoin de jeunes qui se tournent vers nos métiers. Mais on a besoin aussi de reconversion parce qu'on a des très belles reconversions, comme je vous l'ai dit encore l'autre fois.
Oui.
On a des gens qui à 40, 45 ans, qui font une reconversion et qui s'épanouissent en créant de leurs mains. Comme le disait le sous-préfet d'ailleurs tout à l'heure.
Oui, c'est vrai. Alors, quel message souhaitez-vous adresser aujourd'hui aux artisans présents, mais aussi à ceux qui vont nous écouter à l'antenne d'IDFM Radio ?
Aux artisans présents, je pense qu'ils ont vu tout à l'heure que le sénateur Bazin a témoigné de notre efficacité pour les interpeller, pour les informer, pour discuter avec eux, pour amener des solutions sur la table. Une nouvelle fois, je leur dis, la CAPEB, on est toujours force de proposition. On critique, mais on vient avec des solutions. Et donc, on défend nos artisans.
Vous ne baissez jamais les bras, vous m'avez dit un jour.
On ne baisse pas les bras, et toujours pas. La preuve, c'est qu'il y a une nouvelle formation, par exemple, là, qui est disponible Calipuy sur le forum, sur le salon. Ça va permettre à des artisans de se qualifier donc sur la gestion des eaux de pluie, dont des eaux pluviales, les stocker, les filtrer, les remettre dans le réseau d'adsion d'eau avec un surpresseur, etc. Donc tout ça, c'est une démarche RSE, c'est une démarche sur des nouveaux marchés. Pourquoi ? Parce que certainement que ces dispositifs vont devenir obligatoires sur les constructions neuves, individuelles, très prochainement, je pense, parce que l'eau, c'est vraiment sujet d'avenir.
Absolument.
C'est pas que d'aujourd'hui, c'est d'avenir. Donc là encore, on les aide. On les aide aussi à rencontrer, par exemple, Calibat pour différents sujets, que ce soit un sujet évidemment de qualification, mais un différent ou un autre, ou des informations sur une nouvelle qualification que l'artisan voudrait rencontrer. On a évidemment tous nos partenaires commerciaux. On a aussi l'APAS, qui est un organisme social qui aide les artisans à soit les salariés des artisans ou soit l'artisan lui-même à éventuellement pouvoir partir en voyage bonifié, on va dire, et aussi sur des prêts. Il y a des prêts sociaux qui sont disponibles aussi via l'APAS. Donc, je dirais. Beaucoup de solutions,
c'est ça,
pour les artisans
un vrai accompagnement.
Accompagnement, et pour ceux qui ne sont pas là, c'est dommage pour eux parce qu'ils auraient pu bénéficier de tout ça.
Complètement.
Et ça c'est vraiment
aux amateurs.
Je crois qu'on a quelques non-adhérents qui sont passés, je m'en félicite, mais j'espère qu'ils seront conquis par nos solutions proposées.
On vous le souhaite. Peut-être y a-t-il des grands rendez-vous prochainement ou des combats de la CAPEB dans les mois à venir. Vous les connaissez? Si oui, quels sont-ils?
Ah, oh oui, bah alors des combats, oui, on en a, ça c'est sûr. Alors, déjà, un premier point, c'est que nous avons notre Assemblée Générale le 19 juin à Bois d'Arcy. Donc là, c'est réservé à nos adhérents, mais chaque adhérent peut venir s'informer. Oui. Poser des questions, m'interpeller éventuellement s'il le souhaite ou interpeller quelqu'un d'autre. Voilà, donc ça c'est le 19 juin à Bois d'Arcy, l'après-midi. Venez nombreux si vous êtes adhérent de la CAPEB. Si vous n'êtes pas adhérent, vous pouvez toujours adhérer la veille pour venir le lendemain.
Absolument. Bon.
Et puis sur les combats, évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, on va veiller vraiment sur le sujet de la REP.
Oui.
Puisque c'est un sujet
majeur.
C'est un non-sens, je le répète, c'est un non-sens politique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à des petites entreprises de ne pas pouvoir déposer gratuitement des déchets alors qu'ils payent une écotaxe en amont sur les matériaux. parce qu'ils ont un coût agent, c'est-à-dire que quand on trie sur chantier, c'est un coût travail, c'est un coût agent, ça beaucoup l'oublient. Et on voudrait nous faire payer aujourd'hui nos dépôts en petite quantité pour nos adhérents, pour les artisans, quels qu'ils soient. Et là, j'interpelle la FFB, parce que les artisans FFB, la FFB ne défend pas les artisans sur ce sujet-là. C'est-à-dire les artisans...
Je croyais que l'histoire de la REP était
Non, bien au contraire, la FFB est vent debout contre nous sur le sujet, parce que soi-disant que ça coûterait trop cher, etc. etc. Moi, je suis désolé, on paye des éco-taxes. Il est normal de pouvoir accéder à ces déchetteries à titre gratuit. Et là, la FFB est en distorsion sur ce sujet.
D'accord.
Par rapport aux artisans.
Ah oui,
elle défend les grands groupes et les grandes sociétés, et là, met à mal les artisans qu'elle dit défendre.
Donc voilà, c'est dit et vous avez bien fait de le dire. Merci infiniment Jean-Luc Sossois pour ce témoignage et puis eh bien bon combat pour les jours à venir.
Et il y en a encore d'autres et on les mènera.
Et vous viendrez nous en parler à la radio prochainement, j'espère. Merci Jean-Luc,
merci
à bientôt. On marque une pause de quelques minutes et on écoute Gims et Vianney avec leur titre La Même.
Mes amis entendaient la vie que j'ai eue, où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes, les sages et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Hey, hey, aïe, 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 aïe.
Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même.
On prend des boîtes, on y range les gens qu'au fond jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de mille bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins et serré 10 000 mains. On peut aimer Brel et Meugui, aimer même nos ennemis.
Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ses lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque. Hey, aïe, 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 aïe.
Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même.
La vie c'est des envies, l'envie avant les avis.
Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
IDFM Radio, l'économie en direct ce matin depuis le salon de la CAPEB Grande Couronne à Saint-Ouen-l'Aumône. Et nous accueillons à présent Thierry Atta. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Merci d'être à notre micro. Alors vous êtes exposant dans ce salon.
Absolument.
C'est bien ça. Je vous laisse vous présenter, Thierry.
Donc, je suis Thierry Yatta, je suis le fondateur de la société EnviroPlus. Nous sommes une entreprise donc basée en Grand Est, donc nous sommes voisins en fait par rapport à Saint-Ouen-au-Monde. Et nous avons développé une technologie à destination des métiers du bâtiment qui prend tout son sens aujourd'hui, puisque nous supprimons les usages de l'eau pour toutes les opérations de nettoyage des métiers du bâtiment. Donc, plus précisément, habituellement, un carreleur, un plaquiste, un façadier, un maçon, un solier va avoir besoin de nettoyer ses outils après utilisation. Mmh. En fait, réellement, il ne les nettoie pas, il les rince à l'eau. Donc, nous, EnviroPlus, on a, un, résolu la problématique du nettoyage. D'abord, en supprimant l'utilisation de l'eau par un liquide spécial que nous avons développé qui vient majoritairement du coproduit végétal. Donc, mmh. on est sur le déchet de la céréale. D'accord. Et pas sur la graine qui est la ressource alimentaire. Le premier point, donc nos solutions ne sont pas branchées sur le réseau d'eau. Mmh. On oublie l'utilisation d'eau et fatalement, on n'aura aucun rejet d'effluents souillés ou d'eau colorée à rejeter dans les réseaux. Mmh. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en utilisant un liquide nettoyant, on va avoir la capacité d'avoir des outils qui sont mieux nettoyés plus rapidement et que l'on va faire durer plus longtemps. Mmh. Donc ce qui prend encore une dimension un petit peu mmh. plus importante en faisant gagner du temps aux entreprises dans la manière de gérer ce poste qui est le temps de nettoyage mmh. et qui malheureusement encore aujourd'hui n'apparaît dans aucun des boursiers de chantier. C'est-à-dire que si on regarde la décomposition d'un chantier, on va avoir une préparation de chantier, la réalisation des travaux, le nettoyage de la fin du chantier, mmh. mais du chantier. Mmh. Par contre, à aucun moment que ce soit, on aura du temps de nettoyage qui apparaît, alors qu'il est consommé.
Oui.
Et dans les métiers du bâtiment, principalement, on est sur une approche time is money.
Mmh, bien sûr. Et donc, ce principe, vous me disiez que ça existe depuis 20 ans, c'est ça?
Alors,
c'était mis au point il y a 20 ans?
Le point de départ de la technologie, donc qui est pour nous la substitution des solvants pétroliers en milieu industriel.
Oui.
Donc j'ai développé un liquide qui s'appelle l'éco-solution,
oui.
il y a 20 ans. Ce liquide, on l'a déployé donc, d'abord pour éliminer les risques dans les métiers et du bâtiment et de l'industrie, pour remplacer des solvants, des décapants. Et au fil en fait, des réglementations d'évolution des métiers, puisqu'on a une norme qui s'appelle la norme COV 2010 qui est apparue, comme son nom l'indique, en 2010, qui a permis en fait de légiférer pour réduire les émissions de composés organiques volatiles. Mmh. Concrètement, dans la peinture, ça s'est traduit par deux normes qui ont été imposées aux industriels pour continuer de mettre leurs produits sur le marché. En l'occurrence, pour les peintures intérieures, 30 grammes par litre d'émissions de COV, c'est-à-dire qu'on remplace les solvants. Et donc, on a allègrement encouragé les gens à les laver au lavabo mmh. en disant « c'est de la peinture à l'eau, comme oui. la gouache ou l'aquarelle ». Malheureusement, ce qui n'est pas le cas, puisqu'il y a eu des études qui ont été faites, notamment sur les recherches de substances dangereuses dans l'eau, pour identifier et quantifier ce que l'on trouvait dans l'eau comme type de polluant, qui émettait quoi. Où là, il y a eu des campagnes sur 10 métiers qui ont été faites simplement en faisant des prélèvements sous les siphons d'évier, en disant voilà, on prélève les jus de nettoyage et on regarde ce qui est dedans. Et là, on a trouvé en fait du plomb dans les peintures actuelles, normes actuelles. On a trouvé du plomb, on a trouvé du cadmium, on a trouvé du nickel, on a trouvé du zinc, on a trouvé du cuivre, le titane évidemment, parce qu'il n'y a pas de titane, on n'a pas la couvrance et l'opacité sur
oui,
les peintures.
Oui, s'il n'y a pas de titane, oui.
Évidemment, qui est aussi un vrai sujet. Et à partir de là, donc, on sait qu'on a des polluants dans l'eau, issus du nettoyage des outils. Et le sujet, c'est les micropolluants. On a même des PFAS.
Ah oui.
Qui est un vrai sujet du
oui,
moment.
Oui, qui est un vrai sujet.
Et à partir de là, on fait quoi? Donc nous, EnviroPlus, notre vraie valeur ajoutée, c'est d'accompagner les entreprises, un, à mieux faire durablement, mais en partant d'un point logique et très simple, c'est je ne consomme pas d'eau, je ne rejette pas d'eau, mm-hmm. et donc je n'ai pas d'éléments polluants. Et l'élément important aujourd'hui pour demain, c'est l'article 35... de la loi climat et résilience qui entre en application le 22 août 2026. Donc quand je vous dis demain, on y est, hein, après les congés, on y sera. Et c'est la clause environnementale sur la commande publique.
D'accord.
C'est-à-dire que toute entreprise qui va répondre à un marché public, donc, et là, la CAPEB en l'occurrence, encourage les entreprises à s'intéresser et à concourir sur la commande publique, il faut savoir que au 22 août 2026, l'entreprise qui soumettra une offre devra impérativement répondre sur une clause environnementale en lien avec le marché mais on ne sera plus que sur du mode déclaratif, c'est-à-dire qu'il faudra être en capacité de prouver ce que l'on a écrit dans le marché. Si ce n'est pas le cas.
En cas de contrôle, bien sûr.
Oui, mais vérifiable par le maître d'ouvrage.
Oui, bien sûr.
Impérativement. Mais à tout moment, en fait, l'entreprise devrait être en capacité de prouver ce qu'elle a écrit dans le marché. Sinon, elle sort. Donc là, il y a un enjeu qui est considérable, avec une prise de conscience qui n'est pas encore à la hauteur de l'enjeu. Parce que, après les congés d'été, on y sera. Et donc, une entreprise qui a des marchés récurrents avec de la commande publique, donc sur des renouvellements de marché, si elle reste, entre guillemets, dans sa zone de confort, elle peut se faire sortir sans comprendre ce qui s'est passé.
Alors, vous, aujourd'hui, vous êtes ici, à Saint-Ouen-le-Maune, hein, au salon de la CAPEB. C'est un rendez-vous important pour EnviroPlus.
Alors, EnviroPlus, en fait, est partenaire de la CAPEB, donc au niveau national, et plus particulièrement avec la CAPEB Grande Couronne, puisque notre histoire a embrayé sur l'île de France avec les gens de la CAPEB Grande Couronne, donc depuis 2010. Donc, c'est pas la semaine dernière.
Oui, c'est pas récent.
Et on est sur ce salon pour ma quatrième ou cinquième fois. Avec donc des présentations, des solutions, parce que dans les métiers du bâtiment, on a affaire à des gens qui sont entiers, mais qui ont besoin de voir pour comprendre.
Bien sûr.
Et donc systématiquement, on vient avec du matériel pour pouvoir leur montrer.
Faire des démonstrations.
Enfin, leur dire et leur montrer. Ce qui évite en fait le doute et d'être certain de mettre le doigt au bon endroit.
C'est ça, être sur un salon comme aujourd'hui, ça vous permet de toucher pas mal de monde en une seule journée.
C'est ça, que ce soit des artisans, que ce soit les CFA, avec les acteurs de la formation, et puis d'autres horizons.
Et est-ce que depuis que toutes ces normes sur l'environnement existent, puisque ça s'accélère aujourd'hui, vous sentez que votre entreprise est de plus en plus sollicitée ?
Alors, on est de plus en plus sollicité puisqu'on travaille aussi bien avec des artisans, qu'avec des majors. Donc aujourd'hui, nous sommes dans l'incubateur Bouygues Construction Matérielle sur l'innovation.
D'accord.
Nous avons été lauréats avec Eiffage en 2023 sur leur plateforme Sequoia, qui est la marque blanche sur le carbone et le climat, notamment sur les usages de l'eau sur chantier. On travaille donc avec les majors pour déployer sur les chantiers, donc au niveau national. On a commencé l'export également sur la Suisse, qui est un marché assez draconien, notamment sur les rejets. On a embrayé le Canada pour la partie francophone, donc la partie Québec, parce que la problématique de l'eau aujourd'hui, elle est mondiale et elle n'est pas forcément liée à l'accès à l'eau et sur la quantité d'eau. Elle est surtout aujourd'hui en train de glisser vers la potabilité de l'eau.
Oui.
Le vrai problème,
avec
c'est
les eaux usées, tout ça. Ouais, bien sûr.
C'est exactement ça.
Donc, vous avez eu vous avez eu le nez creux il y a 20 ans.
Alors, à 20 ans, c'était un peu extraterrestre.
Oui, c'est ça. Aujourd'hui, vous êtes complètement dans le sujet.
Exactement. Et avec en fait une vraie valeur ajoutée qui est notre expérience et notre expertise.
Bien sûr. Aujourd'hui, ça fait l'objet d'un brevet.
Alors, il y a eu plusieurs brevets qui ont été déposés au fil des années. Notamment sur l'approche en fait recyclage, circuit fermé, et qui aujourd'hui en fait ont légitimité sur cette approche, et en sachant que les solutions que l'on propose sont dans un écosystème qui est une approche matérielle, produit et process. On a un liquide qui est le cœur de la technologie. On a mis en œuvre ce liquide avec des applications métiers, des solutions métiers dédiées apportées aux entreprises, tout ça dans une approche low-tech et qui permet en fait d'induire des vraies démarches RSE dans les entreprises, petites, moyennes, grosses.
Merci infiniment, Monsieur Thierry Attia, pour cet échange riche, de nous montrer ces solutions concrètes pour accompagner les artisans au quotidien. Merci infiniment.
Merci pour votre accueil.
Merci.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Vous écoutez bien IDFM Radio en direct du salon de la CAPEB Grande Couronne, un événement placé sous le signe de l'innovation et de l'avenir des artisans. Et à notre micro, à présent, nous recevons deux acteurs de la société Tersen, Monsieur Sébastien Cornu, donc responsable des relations institutionnelles, et Monsieur François Manissol, chef du département Tersen Développement. C'est bien ça ?
C'est ça.
Bonjour messieurs.
Bonjour.
Vous êtes ici sur le salon de la CAPEB, un moment important pour vous, Monsieur Manissol?
Oui, parce qu'on est heureux de sceller un partenariat à effet du 1er juin pour une durée d'un an entre Tersen et les adhérents de la CAPEB Grande Couronne Île-de-France. Je pense qu'on a des avantages croisés à monter ce partenariat d'abord pour les adhérents de la CAPEB, les artisans de la CAPEB et notamment tous ceux qui travaillent dans le secteur du BTP et qui sont face aux problématiques de gestion des déchets.
C'est ça, parce que en fait votre activité c'est la gestion des déchets.
Alors c'est une partie de notre activité. Oui. On est réparti historiquement depuis un siècle aux quatre coins de l'Île-de-France avec des sociétés bien particulières qui ont été réunifiées, je dirais, en août 2021 sous le nom de Tersen. Donc on sait faire des travaux dans le cadre de la déconstruction, de la démolition, du terrassement grande masse et de la dépollution des sols. On sait aussi gérer des flux de déchets comme les terres excavées de terrassement par le biais de sites que récepteurs que l'on a maillés dans l'Île-de-France, mais aussi depuis 25 ans maintenant par un maillage de déchetterie professionnelle qui s'appelle Écoterie. Et le véritable sens, la jeunesse de l'Écoterie, c'était déjà de se dire il va falloir quand même s'occuper des déchets du BTP, des déchets des artisans, parce que il y a 20 ans on voyait déjà joncher au coin des chemins et le long des routes des choses pas très jolies qui s'appellent des dépôts sauvages. Et on a engagé un maillage de la couronne francilienne par des déchetteries professionnelles qui s'appellent des écoteries. Et les premières cibles de notre chalandise, de nos clients des écoteries, c'est bien sûr les artisans. Pourquoi ? Parce que ceux-là ont besoin parfois à la fois de matériaux de chantier pour faire leur chantier. Je parle de sable, de gravillon, de mélange à béton, mais aussi démolissent et veulent se défaire de leurs déchets. Et on a des plateformes dont le gabarit est en moyenne de 10 000 m² où on est capable à la fois d'accueillir les déchets de déconstruction des artisans, ça va des bétons, ça va des bennes de gravats, des déchets triés d'ailleurs que l'on trie de plus en plus aujourd'hui, mais je pense que Sébastien vous pourra vous parler un petit peu de la REP PMCB dans laquelle nous sommes engagés.
On en a dit un mot juste avant.
D'autre part, ces artisans, ils peuvent repartir de nos sites avec des matériaux, dans une logique de double fret. Mmh. Voilà.
Oui. Et vous-même, Monsieur Manissol, chez Tersen, donc votre activité exactement ?
Alors mon activité, c'est de développer de nouveaux sites, de veiller à leur acceptation sociétale, environnementale, parce que c'est des sites qu'on n'ouvre pas comme on le veut, ce sont des installations classées pour la protection de l'environnement, donc il faut obtenir des autorisations préfectorales pour pouvoir les ouvrir et veiller justement à ce qu'ils soient à la dernière norme, au dernier cri et dans le respect de la réglementation. Et puis aussi avec une approche foncière pour trouver de nouveaux sites, parce que tout le monde c'est que la gestion des déchets c'est important, mais on dit toujours c'est bien mieux que si les sites sont chez le voisin plutôt que chez moi. Donc ça, c'est toute évidemment L'acceptabilité sociétale qui revêt un travail de concertation, de conviction pour pouvoir installer et faire vivre nos sites.
Oui, d'explication de texte pour convaincre chacun. Merci Monsieur Manissol. Alors Monsieur Sébastien Cornu, vous, votre rôle chez Tersen ?
Bien, on l'appelle relation institutionnelle. Alors la relation institutionnelle, c'est très vaste. Mais ça correspond surtout à aller rencontrer un certain nombre de syndicats professionnels, d'associations professionnelles comme la CAPEB. L'objectif, on va pas se mentir, c'est promouvoir les activités de Tersen. Mais l'objectif aussi extrêmement important, c'est d'essayer de déterminer des signaux faibles, de déterminer les besoins des personnes que je vais rencontrer, peut-être en amont, pour pouvoir ensuite les remonter en interne chez Tersen. Et l'intérêt d'être sur Tersen Développement, c'est que c'est une structure qui est là pour faire de la prospective, pour essayer de mettre en face des besoins plus ou moins exprimés par nos interlocuteurs, de dire quelle pourrait être l'offre qu'on pourrait leur proposer qui soit la mieux adaptée. Alors ça peut être du maillage, à tel endroit il n'y a pas de reprise de déchets, puisque là on est en train de parler de reprise de déchets, ou de dire, bon, il y a les déchets du bâtiment, mais il n'y a pas que les déchets du bâtiment. Un artisan peut de temps en temps vouloir aider un particulier à tailler une haie, eh bien on peut récupérer les végétaux. Il a une roue qu'il a récupérée, et on peut la récupérer. Il a des déchets dangereux, il a une tôle d'amiante d'un abri jardin, on sait la récupérer. Et on sait la récupérer, et surtout, on sait la récupérer en assurant une traçabilité et l'absence de responsabilité d'un artisan. On sait très bien qu'un artisan, pour qu'il fonctionne, il a besoin d'une garantie décennale. Une garantie décennale pour qu'elle reste et qu'elle soit, qu'elle perdure, bien, il faut surtout que l'artisan soit capable de démontrer, en tout cas pour notre métier, que les déchets vont dans les bonnes filières et qu'ils ne vont pas partir dans un bois. Et ça y est, pour pouvoir le prouver, nous on a tout développé cet outil de traçabilité qui permet de garantir à cet artisan que ces déchets peuvent être repris et gérés. La deuxième chose, on parle de signaux faibles, on a parlé beaucoup de la REP PMCB, la responsabilité élargie du producteur pour les produits, matériaux de construction du bâtiment. Ce grand intérêt de cette REP, c'est que, sous réserve que les déchets soient triés, et on insiste beaucoup sur cet aspect-là, eh bien, ils peuvent être repris sans frais. Alors, il y a un certain nombre de prérequis. Mais c'était là où on s'est dit, on a une formidable opportunité pour apporter un service complémentaire, tout en ayant une vocation à, j'allais dire, citoyenne, qui est une réduction de nos déchets. Avoir un meilleur tri, ça veut dire faciliter le recyclage, ça veut dire faciliter l'économie des déchets, et ça permet de encore mieux valoriser et se concentrer sur notre savoir-faire qui est développer une construction responsable et circulaire, tout simplement.
D'où l'importance aujourd'hui de signer ce partenariat avec avec la CAPEB. C'est une brique de plus à votre
activité. Ça s'inscrit dans la continuité de ce que l'on a voulu faire, c'est-à-dire depuis de nombreuses années, mais plus spécifiquement depuis 2 ans, on a essayé de former notre personnel, et puis former les différents partenaires et les différents artisans qui venaient déjà chez nous, en disant, mais vous apportez vos déchets en mélange, c'est dommage, prenez 5 minutes pour les trier, ou peut-être même pas 5 minutes, parce que vous le faites au moment du chantier,
oui,
avoir
oui,
deux sacs à gravats au lieu d'un seul,
au moment de
où on
la
sépare.
Fin du chantier, oui.
Exactement, et vous pouvez gagner du temps chez nous, parce que c'est aussi un des enjeux chez nous, c'est un artisan qui arrive chez nous, ou un particulier, il doit rentrer sur site, se faire peser, déposer ses déchets, repartir avec son bon en moins de 10 minutes.
Ah oui.
Le temps, c'est de l'argent.
C'est court.
Les déchets, tout le monde a envie de s'en débarrasser le plus vite possible. Donc, c'est aussi notre credo. C'est
ça, vous avez une méthode qui permet de...
D'être rapide.
C'est ça.
Rapide et efficace.
Très bien. Bah, écoutez, on vous souhaite que ce partenariat fasse des petits et que vous puissiez convaincre tous les artisans de la CAPEB de votre méthode.
C'est ce qu'on souhaite.
Merci
beaucoup.
Infiniment pour
Merci beaucoup.
Ce témoignage. Merci à vous et bon salon.
Merci.
On marque une nouvelle pause et on écoute Charles Aznavour, Hier encore.
Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie. Comme on joue de l'amour et je vivais la nuit, sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore j'avais 20 ans, je gaspillais le temps
en croyant l'arrêter et pour le retenir, même le devancer. Je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec désinvolture. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire, en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent, mes 20 ans.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Nous sommes de retour sur IDFM Radio, présente aujourd'hui sur le salon de la CAPEB Grande Couronne à Saint-Ouen-l'Aumône. Et à notre micro, nous avons la chance d'avoir Madame la Présidente du département du Val-d'Oise, Marie-Christine Cavecchi. Merci Marie-Christine d'être avec nous sur IDFM Radio à l'occasion de ce salon. Alors votre présence montre... l'importance de ce salon. Quel regard portez-vous sur cette filière essentielle du territoire?
C'est très important pour nous, pour le département. Ça apporte une plus-value au territoire. Je trouve que le réseau d'artisanat est un réseau vivant, est un réseau dynamique, malgré les difficultés qu'ils vivent au quotidien. Et ce sont des milliers d'entreprises qui font vivre, finalement, le territoire du Val d'Oise. Donc, pour nous, c'est très important. Dans la partie bâtiment aussi, bien sûr, bien entendu, le département, en tant que constructeur, puisque on a à notre charge un grand nombre d'immeubles à protéger, à rénover, et à travers cela, c'est aussi du travail que nous apportons aux entreprises du Val d'Oise, bien sûr, aux artisans. Je trouve que le côté aussi apprentissage est très important par rapport à l'artisanat, c'est-à-dire que les entreprises artisanales ont dans leurs membres, dans leurs agents, enfin dans leur personnel, un grand nombre de jeunes qui sont en formation, et c'est quelque chose de très important. Parce que, je l'ai entendu tout à l'heure, je le répète, finalement, quand on est artisan, on peut être fier de son travail, et ça peut donner envie à de nombreux jeunes de rejoindre les troupes du terrain que sont ces entreprises, ces milliers d'entreprises.
Complètement, et chaque fois que moi je reçois la CAPEB ou la FFV, oui. On se dit que c'est aussi un formidable moyen d'être à son compte, de pouvoir créer son entreprise. Donc,
complètement.
C'est une vraie
chance. Moi, je suis assez admirative parce qu'en fait, au départ... on peut penser qu'un artisan qui se lance, c'est une vraie aventure. Il a envie, il a des idées, il a des objectifs, évidemment, mais en même temps, c'est une aventure. Et ce qu'on a entendu aussi, c'est que rien ne facilite la vie de ces personnes, de ces chefs d'entreprise, qui ont non seulement, voilà, exactement, leur famille, mais en plus leur personnel dont ils ont la charge. Et finalement, ils sont résilients, ils sont courageux. Moi, je suis très admirative. Très très admirative.
Madame Cavecchi, le fait de vous avoir à ce micro me donne l'occasion que nous parlions de la fameuse charte que vous avez signée.
Oui.
À propos des déchets, qui est un vrai problème dans le Val d'Oise, et ça montre votre engagement à ce niveau-là. Donc, je vous laisse nous en dire quelques mots.
Mais écoutez, oui, c'est important pour nous, puisqu'en fait, c'est une charte qui permet aux uns et aux autres d'être responsables et de se parler. En fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on travaille sur un dialogue, un échange régulier, une écoute des problèmes des uns et des autres, et qui nous permet d'avancer. Et la charte Évidemment, on a parlé de ces déchets qui sont déposés de temps en temps, malheureusement, là où il ne faut pas. C'est compliqué pour les artisans, je comprends très bien. Et la loi a changé aussi, donc j'ai entendu que c'était difficile. Donc on essaie, nous, d'accompagner, en tout cas, les artisans à travers cette charte. Mais il y a autre chose qui nous lie avec, avec la CAPEB et avec le Val d'Oise, c'est le Val d'Oise Rénov.
Oui.
Qui est très important, puisque en fait, Val d'Oise Rénov permet d'expliquer aux particuliers et de présenter aux particuliers toutes les entreprises qui sont capables de les aider. Et ça, c'est financé bien sûr par le département, mais aussi par les intercommunalités du Val d'Oise, toutes les intercos qui se sont liées pour justement faire en sorte que les particuliers, vous savez, aujourd'hui, la rénovation énergétique est extrêmement importante. Et évidemment, il faut que tout un chacun puisse entrer dans ce dynamisme, mais il y a aussi des entreprises voyous, on va dire ça comme ça, qui trichent et qui ne sont pas capables d'apporter de la qualité aux travaux qu'ils mènent.
Qui font du mal
beaucoup de mal aux artisans qui sont honnêtes et qui tout courageux et qui ont un savoir-faire. Mmh. Donc notre rôle à travers Val d'Oise Rénov, qui est porté par un de mes collègues Alexandre Pueyo, c'est justement de pouvoir permettre aux particuliers d'avoir confiance dans les entreprises qu'ils vont commander, je veux dire, dans leurs travaux.
Alors, pour s'adresser à tous les artisans du Val d'Oise et au-delà, quel message souhaitez-vous adresser à ces personnes aujourd'hui ?
Ah ben d'abord, un message d'admiration, je crois que je l'ai déjà dit, pour leur savoir-faire, un message de fierté du département, parce que je vous rappelle que le département n'a pas la compétence économique, mais à travers plusieurs, justement, actions, on peut quand même les accompagner. Donc, un message de fierté, un message d'encouragement, et puis de reconnaissance pour tout leur travail et cette plus-value qu'ils apportent au territoire du Val d'Oise.
Merci infiniment, Madame la présidente du Val d'Oise, Marie-Christine Cavecchi.
Merci beaucoup.
Merci d'être venue à notre micro.
Merci à vous. Bonne journée à tout le monde.
Merci.
IDFM Radio, 98 FM.
IDFM Radio, qui est en direct du salon de la CAPEB Grande Couronne à Saint-Ouen-l'Aumône. Et à présent, à notre micro, Madame la députée Aïda Hadizadeh. Bonjour Madame la députée.
Bonjour.
Députée de la deuxième circonscription, c'est bien ça ?
Tout à fait.
Vous êtes, quelle est votre commission en tant que députée à l'Assemblée ?
Donc je suis députée depuis juillet 2024, donc la dissolution. J'ai grandi dans ce territoire et plus précisément même à Saint-Ouen-l'Aumône, le siège de la CAPEB.
Très bien.
Mais mes sujets, ce ne sont pas ceux du bâtiment, c'est en amont ceux de l'éducation. J'ai travaillé plusieurs années au ministère de l'Éducation nationale et c'est un peu tout naturellement que j'ai choisi d'intégrer la commission éducation, culture, sport et vie associative. Mais plus particulièrement, ce sont les sujets liés à l'enfance, à l'éducation, à l'enseignement supérieur aussi, qui ont vraiment tout mon intérêt.
Donc il est question, vous avez dans votre discours là, d'inauguration, vous avez parlé des méthodes pour encourager davantage les jeunes justement à rejoindre les métiers du bâtiment et de l'apprentissage. Donc je vous laisse nous en dire un mot.
En fait, si je me rappelle bien, moi quand j'étais écolière, collégienne, lycéenne et même étudiante, moi j'étais plutôt bonne élève et j'étais encouragée à aller vers les filières générales où les matières académiques étaient considérées comme nobles. Et on le savait, et c'est encore le cas malheureusement à l'heure actuelle, que quand on est moins bon académiquement, eh bien on est orienté vers les filières manuelles. Et plus je grandis, plus je vieillis, si je puis dire ainsi, plus je me rends compte de deux choses. Déjà, il y a quand même une aberration à considérer que les métiers de la main sont des métiers non nobles.
Alors qu'on est
seconde main. Oui. C'est très joliment dit. Oui. Les métiers de la main seraient des métiers de seconde main. Et je suis frappée d'une chose. Nous, notre génération, percutée par une nouvelle révolution culturelle, presque industrielle, la révolution de l'intelligence artificielle. Mais moi, je suis convaincue d'une chose. Les métiers qui vont être préservés de ce choc de révolution de l'intelligence artificielle, c'est précisément les métiers de la main. Moi, si j'avais un conseil à donner à mes propres enfants qui ont 9 et 7 ans, c'est faites travailler votre main et choisissez des métiers où votre main travaille, car vous ne serez jamais grand remplacé, si je puis dire, par les machines, par les robots. Et c'est ce discours-là qu'on devrait porter au niveau national dès maintenant. Les métiers où la main travaille, les métiers de l'artisanat, du bâtiment, de la plomberie, de la chauffagerie, de la charpenterie, de la métallurgie, je ne vais pas tous les faire, mais on les a tous en tête, ce sont des métiers d'une noblesse rare et surtout d'une préciosité. Parce que on a à la fois le sentiment d'être utile, et cette utilité, elle est concrète. On a le sentiment d'être utile et d'avoir sa place dans la société, et on n'a pas de cette crise du sens dont je parlais dans mon discours, qui percute souvent les personnes lors de leur quarantaine, leur cinquantaine, ou quand on est poussé dans notre société capitaliste à faire uniquement de l'argent, à 40-50 ans, on se dit « mais ma vie n'a aucun sens ». Et je pense ici aux métiers de la finance qui sont survalorisés dans notre société, qui gagnent plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Ce sont des gens qui font un pognon de dingue, pour reprendre l'expression du président de la République. Eh bien, vous voyez, moi, quand je vois ces métiers, j'en connais beaucoup, des personnes dans ces métiers qui ont cette crise du sens. D'ailleurs, c'est marrant, mais sur les réseaux sociaux, on les voit d'ailleurs faire des marathons, parce que c'est comme ça qu'ils résolvent la crise du sens. Et je constate aussi une chose, c'est que ceux qui sont dans ces métiers manuels n'ont pas cette crise du sens. Alors, c'est peut-être un peu simpliste de dire ça, mais vraiment, c'est une observation que je fais. Parce qu'au final, quand on réalise quelque chose de ses propres mains, c'est quelque chose dont on est fier, qu'on est fier de montrer aux autres, et qu'on sait qu'il va rester dans une forme d'héritage, vous voyez. Et donc, moi, je souhaiterais, maintenant, à titre politique, que les métiers de la main soient revalorisés dans notre éducation, mais dès le plus jeune âge. Oui. Je constate cette chose-là. Mes enfants, moi, sont à l'école primaire. Ils font de l'éducation musicale, ils ont une éducation sportive, c'est très bien. Mais ils ne travaillent plus avec leurs mains. Alors qu'ils le faisaient à la maternelle, les fameux travaux manuels. Moi, à l'époque, j'ai appris à coudre au CP.
Moi aussi.
Et c'était une bonne chose. Hein.
C'est vrai.
Et j'aurais aimé continuer. Ouais. Je sais que beaucoup d'enfants, parce que j'ai aussi une formation d'animatrice BAFA, on faisait des ateliers cuisine, ils adorent ça. Apprendre à cuisiner, c'est savoir faire quelque chose de ses mains. Et en fait, il faut que la main travaille, il faut que ces métiers-là soient perçus comme des métiers d'avenir. Et tous les autres sujets qui sont liés, tous ces sujets qu'a évoqué le président de la CAPEB, ceux de la taxation, d'une politique publique qui manque de stabilité, ben je pense que cette origine se trouve dans cette espèce de désamour culturel que notre société a pour tout ce qui relève de la main. Ce sont des métiers dévalorisés, et c'est intéressant parce que je vois aussi, je regarde les jeunes autour de cette table, on voit des influenceurs sur les réseaux sociaux qui se filment en train de faire leur métier. Je pense à cette jeune fille qui a convaincu son père de la prendre dans son entreprise familiale. Son père n'était pas du tout convaincu. Et en fait, elle a commencé à faire des vidéos, elle travaille extrêmement bien. Et donc, c'est devenu une star des réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram. Et c'est une fille très féminine, mais qui pose le carrelage, qui fait des dalles en béton. Enfin, voilà, qui est,
ah oui, on voit des choses incroyables. Hein,
incroyables.
Ça donne envie de s'y mettre. Hein.
Et cette nouvelle génération, d'accord, moi, je la trouve époustouflante, pleine de vie, pleine de créativité. Et quand je la vois faire, je suis plutôt confiante dans l'avenir. À nous, adultes, dès à présent, de les aider et de remettre notre échelle de valeur dans le bon sens.
Et surtout, vous avez dit quelque chose d'important, j'ai retenu dans votre discours, vous avez dit qu'avec l'importance de l'IA aujourd'hui, l'intelligence artificielle, eh bien, ces métiers-là ne pourront pas être remplacés par l'IA.
Tout à fait. Et c'est ce qu'il faut dire dès le plus jeune âge. Je voyais des articles très savants passer dans The Economist, un magazine anglais qu'on ne présente plus. Quel métier devons-nous recommander aux jeunes? J'ai pas lu l'article, dans ma tête, je me suis dit, mais moi je sais. Les métiers de la main, ces métiers-là, demain, vous aurez toujours besoin de faire venir un plombier, un charpentier, un garagiste. Vous voyez, tous ces métiers-là ne pourront pas être remplacés. Ce savoir-faire ne pourra même pas être délégué. Et là, on aura besoin de ces métiers.
Il risque même d'ailleurs de retrouver une nouvelle vie grâce... parce que
une nouvelle vie, il faut rajouter une nouvelle dignité. Mm-hmm. Et cette dignité, il faut qu'on la redonne à l'école. Moi, je suis frappée d'une chose, et on a tous des exemples dans notre entourage d'élèves qui étaient brillants et que les enseignants, un peu l'institution scolaire, poussaient vers les voies générales, alors qu'eux-mêmes se voyaient dans les voies professionnelles. Mm-hmm. Moi, j'ai un exemple familier en tête, c'est le frère d'une amie qui voulait voulait faire cuisinier, mais détermination, c'est un élève brillantissime et ses profs étaient atterrés. Et les parents ont tenu bon en disant mais non, il veut faire cuisinier. Et là aujourd'hui, il a son restaurant,
il est
heureux, il est épanoui, il fait un métier qui a du sens pour lui et qui est utile aux autres. Mm-hmm. Vous voyez, je crois que les métiers de la finance ont peu de sens et sont souvent pas très utiles à notre société.
Et ne permettent pas toujours de se mettre à son compte, ce qui est le cas dans les métiers artisanaux.
Tout à fait. Ouais. Se mettre à son compte, je sais que c'est extrêmement difficile. Moi, je partage ma vie avec un chef d'entreprise. J'ai énormément d'estime pour les chefs d'entreprise, au masculin comme au féminin, surtout au féminin d'ailleurs. Moi, je serais incapable de me lancer, de me dire que je ne suis pas salariée et tout ce qui rentre dans la caisse, c'est moi qui dois aller le chercher. C'est quand même vivre sans une forme de sécurité de l'esprit. Et j'ai énormément d'admiration pour ces chefs d'entreprise, petites, moyennes, grandes, parce qu'ils doivent faire vivre leurs salariés, faire rentrer de l'argent dans leur trésorerie et payer des salaires. Et ça, c'est très concret. C'est pour ça que nous devons les soutenir. C'est le tissu aussi qui fait la vitalité et la richesse de nos territoires et qui fait tourner l'économie française, il faut le dire. Nous sommes un pays riche et si nous voulons rester, il faut soutenir tous ceux qui créent de la richesse tout en faisant du bien au pays. Et les artisans en font partie.
Merci infiniment, Madame la députée. Merci. Et merci d'être venue au micro d'IDFM.
Je vous remercie de votre invitation.
Merci, à bientôt. Merci.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Au micro d'IDFM Radio, à présent, Monsieur Cyril Allavoine, sous-préfet d'Argenteuil. Bonjour, Monsieur le sous-préfet. Et
bonjour.
Merci d'être avec nous sur IDFM Radio à l'occasion de ce salon de la CAPEB Grande Couronne à Saint-Ouen-l'Aumône. Votre présence aujourd'hui témoigne de l'importance du secteur du bâtiment pour le territoire, au niveau de la préfecture, bien sûr. Quel regard portez-vous sur le rôle précisément des artisans pour le dynamisme économique local ?
Alors vous savez, moi je fais partie d'une génération qui connaissait très bien l'adage « quand le bâtiment va, tout va ». Voilà.
Qui existe toujours,
qui existe toujours et qui, je crois, est toujours aussi important pour le dynamisme économique du territoire. Alors pourquoi est-ce qu'on est présent aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que l'État est représenté aujourd'hui auprès de cet événement qui est organisé par les artisans et les petites entreprises ? C'est parce que ces derniers, ces artisans, ces petites entreprises, représentent 50% du chiffre d'affaires du bâtiment en Île-de-France. On pense souvent aux grands chantiers, on pense souvent aux grands opérateurs du BTP. Ces grands opérateurs, évidemment, ont leur rôle à jouer, mais tous ces artisans, toutes ces petites entreprises représentent 50% du chiffre d'affaires du BTP. Et un autre point que j'ai tenu à souligner, c'est que ces mêmes artisans et petites entreprises représentent 70% des apprentis dans le secteur du BTP. Et l'apprentissage, c'est vraiment un secteur d'avenir. C'est important pour des jeunes qui vont choisir cette filière, soit parce que c'est leur vocation, soit parce que les autres filières de l'éducation nationale ne leur correspondent pas. Et ça va leur donner une vraie possibilité d'avenir pour eux, de progression, de poursuivre leurs études derrière s'ils le souhaitent. Et ça a été souligné également, ça fait partie de ces métiers qui, d'une part, peuvent donner du sens, parce qu'on construit quelque chose, on voit ce qu'on a construit et ça reste derrière soi. Et d'autre part, ce sont des métiers qui n'ont pas vocation à être remplacés par l'intelligence artificielle.
On vient d'en parler avec Madame la députée, absolument. Pensez-vous que ce type de salon permet de renforcer le dialogue entre des personnes comme vous et les entreprises, les artisans ?
Absolument, et c'est une performance que j'ai tenu à souligner également dans mon propos tout à l'heure. C'est que le président de la CAPEB a su faire venir à la fois un représentant de l'Assemblée nationale, un représentant du Sénat, un représentant de la préfecture. Et c'est particulièrement important ce genre d'événement pour faire remonter les préoccupations d'un secteur vis-à-vis à la fois du législateur et de celui qui sera chargé de mettre en œuvre la réglementation ensuite, c'est-à-dire le préfet. Et donc c'est vraiment important que ce dialogue existe, il ne faut pas le galvauder. Et c'est souvent lors de ce type d'événement qu'on met le doigt sur des vraies préoccupations et qu'on est capable parfois de faire évoluer la réglementation, la législation ou en tout cas de l'adapter dans son application.
Quel message souhaitez-vous adresser aujourd'hui aux artisans de ce salon mais aussi de l'antenne d'IDFM Radio qui écouteront votre message ?
Alors c'est toujours difficile d'être porteur d'un message d'espérance alors qu'on vient de souligner que pour le 12e trimestre d'affilée, le secteur du BTP voit son activité se contracter. mais je ne peux pas ne pas rappeler hein, le soutien constant que les pouvoirs publics ont eu vis-à-vis de ce secteur, à la fois au travers d'aides qui existent pour le temps normal, j'allais dire, mais aussi de dispositifs spécifiques qui ont été mis en place à l'occasion de chacune des crises qu'on a traversées ces dernières années. Je voudrais rappeler évidemment la crise du Covid, la crise du coût de l'énergie liée à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, dernièrement la guerre en Iran. À chaque fois, il y a eu des dispositifs spécifiques d'aide, le prêt garanti par l'État notamment. Beaucoup de petites entreprises en ont bénéficié. Et plus récemment, donc à l'occasion du conflit en Iran et du renchérissement du coût de l'énergie, deux dispositifs qui concernent directement les artisans du BTP et les petites entreprises, qui sont d'une part le soutien sur le gazole non routier, donc une aide de 20 centimes d'euros par litre de gazole non routier, avec un guichet qui va ouvrir le 8 janvier sur impots.gouv.fr.
Le 8 juin, excusez-moi.
Et un autre dispositif qui est mis en place par BPI France, qui est des prêts flash carburant qui peuvent s'échelonner de 5 000 jusqu'à 50 000 euros pour les entreprises qui en font la demande. Et ce sont des prêts qui présentent l'avantage de pouvoir être demandés sans garantie.
Donc oui, des vraies aides qui vont certainement être les bienvenues. Merci infiniment, Monsieur Cyril Alaouane. Merci, sous-préfet d'Argenteuil. Merci de votre
présence. Avec plaisir.
À notre micro. Merci. Avant de poursuivre, on écoute Adèle et son titre « Rolling in the Deep ».
There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark.
FM, 98 FM.
Toujours en direct du salon de la CAPEB Grande Couronne, merci de votre fidélité à IDFM Radio. Et à notre micro à présent, deux acteurs importants de la CMA du Val d'Oise, Olivier Salat et Yves Cogendassamy. Bonjour Olivier, bonjour Yves.
Bonjour Jacqueline.
Alors, votre présence ici au salon de la CAPEB montre l'importance que revêt ce salon. Quelques mots pour en parler, Olivier d'abord.
Avec plaisir, Jacqueline. La CMA Île-de-France Val-d'Oise est partenaire de l'ensemble des entreprises artisanales du bâtiment et spécifiquement de la CAPEB qui organise annuellement ce formidable salon professionnel qui rassemble à la fois les adhérents de la CAPEB, les entreprises du bâtiment et puis les professionnels qui les accompagnent au quotidien, les fournisseurs de matériaux. Et nous, Chambre de métiers du Val-d'Oise, on vient également se nourrir des nouveautés technologiques, puisque il faut savoir que sur le Val-d'Oise, il y a quasiment 38 000 artisans, et 40% d'entre eux, il s'agit d'entreprises artisanales spécifiques du bâtiment.
Oui,
38 000 artisans,
oui,
il y a à peu près, je dirais, 13 000 entreprises du bâtiment.
C'est un beau chiffre.
Dans le second œuvre, le gros œuvre, la plomberie, le chauffage, l'électricité. Donc, et c'est en plus un secteur d'activité qui crée de la richesse et qui emploie aussi, qui forme des jeunes. Donc, ça a tout son sens que la CMA soit partenaire de ce salon.
Merci Olivier Salah. Yves Cogendassamy, donc vous, votre présence sur ce salon.
Eh bien, je viens en fait parce que c'est pour moi un rendez-vous habituel, comme le disait Olivier. Et puis on a beaucoup de sujets, notamment sur la transition écologique, où nos conseillères de la CMA justement accompagnent les entreprises, les artisans de façon générale, et vont pouvoir leur donner quelques contacts d'entreprises locales du bâtiment quand ils ont besoin de faire des travaux, justement, de rénovation de leurs locaux professionnels. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on fait le lien, justement, avec les entreprises du bâtiment.
Vous parliez des jeunes, Olivier. Pensez-vous qu'ils s'intéressent aujourd'hui davantage au métier du bâtiment que précédemment ?
Alors, c'est une excellente question. Les métiers du bâtiment, mais on pourrait dire aussi au sens large de l'artisanat, méritent vraiment, comme vous le faites, des focus, des coups de projecteur, parce qu'aujourd'hui, il y a de vrais débouchés. Et effectivement, aujourd'hui, dans le cadre d'une politique d'orientation, et où quand des jeunes se posent des questions à savoir quelle filière choisir, on a tendance, il est vrai en France, on est assez latin, de mettre de côté les filières professionnelles techniques au profit de filières plus académiques, hein. On connaît tous l'expression « passe ton bac d'abord », etc. Mmh. Alors que les entreprises du bâtiment sont en recherche de main-d'œuvre et de savoir-faire qualifié. Surtout que les métiers du bâtiment se sont extrêmement professionnalisés, intègrent les nouvelles technologies, l'IA, les produits sont de plus en plus complexes et perfectionnés, notamment comme on vient de le voir pour intégrer la transition, l'enjeu de la transition écologique. Donc nous, on lance un grand message effectivement aux professionnels de l'orientation, aux collégiens, aux familles. Ne sous-estimez pas, oui, parce que c'est le cas. Ne sous-estimez
pas. C'est un discours qui existe depuis longtemps.
Les métiers de l'artisanat, les métiers manuels. Il y a un taux d'insertion professionnelle très rapide après le diplôme, qu'il s'agisse d'un diplôme de niveau CAP et ou bac plus, des BTS, on peut même aller jusqu'à des master 2 dans les métiers du bâtiment. Il y a des besoins considérables dans le secteur du bâtiment et de l'artisanat au sens large, effectivement, de jeunes, et je ne peux inviter que nos jeunes à s'orienter vers les métiers, notamment du bâtiment.
On se disait avec les précédents invités et qui sont les officiels un petit peu de ce salon, donc monsieur le sous-préfet, madame la députée, qu'il y a peut-être une carte à jouer avec justement l'intelligence artificielle qui ne... On n'arrête pas de dire que des professions vont disparaître au profit de cette intelligence artificielle, sauf peut-être justement les métiers de l'artisanat. C'est un vrai sujet aujourd'hui. Yves,
oui,
vous voulez en parler ?
Exactement. Et c'est un sujet qui intéresse beaucoup nos chefs d'entreprise parce qu'ils veulent savoir comment l'IA peut les... peut les aider dans leur quotidien. Et c'est la raison pour laquelle, en tout cas, c'est les questions les plus posées auprès de notre conseiller numérique. Ce sont les animations que l'on réalise le plus, que ce soit sous forme d'atelier ou sous forme de formation. Il y en a une aujourd'hui, actuellement. Notre rôle, c'est de leur montrer quels sont tous les outils pour pouvoir, au quotidien, être aidés par l'IA dans le cadre de leur activité. Mais ce qui nous rassure, c'est vrai que sur ces métiers plutôt manuels, on ne va pas avoir de l'IA qui va venir en concurrence, finalement, mais plutôt venir les aider dans leur quotidien.
Complètement. Donc, une vraie renaissance. Ça n'a jamais cessé d'exister, mais voilà, peut-être un regain, celui que vous attendez depuis longtemps. Olivier.
Tout à fait. Alors, contrainte, opportunité. Oui, aujourd'hui, on vit dans un monde qui bouge avec des mutations perpétuelles. Celle-ci en est une. L'IA est un outil. Et nos artisans, effectivement, sont dans des démarches d'acquisition des nouveaux outils. Un, pour rester compétitif. Oui. Et deux, comme vous le dites, pour bénéficier d'appui.
C'est
extrêmement facilitateur. Comme l'expliquait Yves, la CMA Île-de-France, et notamment sur le Val d'Oise, nous avons des conseillers dédiés experts sur ce passage de la digitalisation, le numérique, la numérisation des entreprises. Et on ne peut inviter que les chefs d'entreprise à contacter leur chambre de métier et de l'artisanat pour bénéficier d'un accompagnement d'un expert sur ce volet-là. Pas que l'IA, mais effectivement tout le volet numérique et digital de l'entreprise pour rester compétitif et pour montrer que les entreprises artisanales, comme elles l'ont toujours su le faire, elles ont toujours été capables de s'adapter aux nouveautés.
Merci infiniment d'être venu à notre micro. Merci Yves Kojandasamy, merci Olivier Sala et puis plein de bonnes choses pour la CMA du Val d'Oise.
Merci Jacqueline.
Merci.
IDFM Radio 98 FM.
Nous continuons à présent avec Emmanuel Maillette du CFA BTP Hermont. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Jacqueline.
Ravi de vous retrouver ici sur ce salon de la CAPEB à Saint-Ouen-l'Aumône.
Le plaisir est partagé.
Nos élus, sous-préfets, présidents du département ont insisté sur l'envie de redonner aux jeunes de rejoindre les métiers du bâtiment. Vous, c'est votre credo quotidien, c'est
ça ? Exactement, tout à fait. Nous, on est un CFA du bâtiment, donc à Hermont. On propose donc l'ensemble des formations en apprentissage sur le bâtiment. On appartient au réseau BTP CFA Île-de-France qui représente plus de 3000 apprentis dans les métiers du bâtiment et des travaux publics en Île-de-France. Et c'était important pour nous d'être là aujourd'hui pour être à côté de nos entreprises partenaires, de nos fournisseurs, de la CAPEB en fait. Voilà pourquoi notamment nous sommes là aujourd'hui.
Quels sont les métiers aujourd'hui les plus recherchés dans votre domaine ?
Alors, métiers recherchés, nous, la particularité que nous avons à Hermont, c'est que nous avons une dominante sur le fluide. Et le fluide, ce qu'on entend, c'est les métiers sanitaires, donc plomberie, thermique, chauffage, métiers de la maintenance, efficacité énergique. Donc nous, je dirais que c'est un secteur d'activité qui recrute. Les maçons aussi, il y a donc le gros œuvre. On recherche beaucoup de jeunes, en fait, sur les métiers de la maçonnerie, les métiers de l'électricité aussi. En fait, l'ensemble des métiers du bâtiment, en fait, sont un peu touchés, je dirais.
Mm-hmm. Oui. Et donc, c'est l'occasion, puisque vous êtes à notre micro, de parler d'un événement important qui va avoir lieu le 2 et le 3 juillet, à savoir les métiers de plombier au féminin. Donc, quelques mots sur cet événement.
Eh bien, ça s'inscrit dans la thématique de l'année au BTP CFA d'Hermont, qui est le BTP s'écrit aussi au féminin. L'idée, c'est de pouvoir montrer en fait qu'aujourd'hui, les métiers du bâtiment sont ouverts à toutes et tous. Il faut avoir en fait l'envie d'y entrer, et quand on a l'envie d'y entrer, on peut faire une carrière et ça se passe très bien. Et donc de là, montrer que pour une femme, ça peut aussi très bien se passer. Donc on a mis en avant en fait les jeunes filles au CFA qui sont rentrées dans les métiers du bâtiment. Donc on poursuit cette action. Il y avait une manifestation le 13 mars avec un ensemble de partenaires ce thème se poursuit avec le 2 et 3 juillet. Donc c'est un vie ma vie. L'idée, c'est de faire découvrir en fait le CFA à à des personnes de différents horizons, même peut-être, pourquoi pas, une députée, pour pouvoir venir découvrir les métiers du bâtiment. Et le 2 et 3 juillet, c'est plutôt orienté sur les métiers de la plomberie. Voilà, donc vie ma vie de plombier au féminin.
Vous avez des chiffres à nous donner sur cette comment le pourcentage entre les femmes qui sont artisans et les hommes ?
Alors, aujourd'hui, en fait, les chiffres du nombre de jeunes femmes dans un CFA sont un peu les mêmes chiffres que la réalité en fait des artisans. C'est-à-dire que pour nous, dans les métiers dits opérationnels, je mets de côté les métiers administratifs. Dans les métiers opérationnels, c'est 2% de jeunes femmes en fait dans les métiers dits opérationnels.
Oui. Donc il y a de la marge.
Il y a de la marge. Il y a du travail. Il y a du travail. Donc
on est. Mais vous avez travaillé.
Exactement.
Emmanuel, c'est une question que je pose un petit peu à tous nos invités. Quel message voudriez-vous faire passer aux artisans, aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui ?
Que les métiers du bâtiment, en fait, sont des métiers d'avenir. Ces métiers qui ne vont pas être remplacés par l'IA, déjà, c'est dans vrai. Un premier temps. Donc, il y aura
c'est
toujours
une bonne
besoin.
Nouvelle, ça.
Oui, c'est une bonne nouvelle. Alors, l'IA va être là pour nous permettre d'optimiser certains fonctionnements, mais
absolument.
En tout cas, il y a des gestes qui ne pourront pas être effacés. Donc, c'est des métiers d'avenir, c'est des métiers qui recrutent. On a parlé de la maçonnerie, mais plomberie, en électricité. Donc, c'est des métiers qui ont des courbes où beaucoup de personnes vont partir à la retraite, il va falloir les remplacer. Donc il y a de l'avenir dans ces métiers-là. C'est des métiers valorisants. Et donc je dirais que entreprises, jeunes, travaillons ensemble en fait avec tous les acteurs du territoire pour ouvrir nos portes et travailler en synergie.
Merci infiniment pour ce témoignage et puis vraiment ce message d'espoir finalement pour l'artisanat au féminin et au masculin.
N'hésitez pas de venir visiter l'expo photo sur le salon de la CAPEB aujourd'hui.
Oui, j'ai vu ça, elles sont magnifiques et on va en reproduire quelques-unes sur le site d'IDFM.
Avec plaisir.
Merci Emmanuel Mayette, donc responsable du BTP CFA à Hermont.
Merci beaucoup à vous.
Merci à vous. On s'arrête encore quelques minutes, le temps d'écouter le duo Vita et Slimane avant toi.
Y'avait pas d'image, y'avait pas de couleur, y'avait pas d'histoire, mon âme sœur. Y'avait pas les fêtes, y'avait pas le cœur, aucun sourire, mon âme sœur.
Tu sais, le monde ne tournait pas rond, j'avais les mots mais pas la chanson. Tu sais l'amour, tu sais la passion. Oui, c'est écrit, c'était dit. Oui, c'est la vie. Avant toi, je n'avais rien. Avant toi, on m'a pas montré le chemin. Je sais, le ciel ne m'en veut pas d'avoir posé les yeux sur toi. Pas montrer le chemin.
Y'avait pas de maison, y'avait pas le bonheur, j'avais pas de raison, mon âme sœur. Y'avait pas de rire, mais y'avait pas de pleurs, j'étais seule ici, mon âme sœur.
C'est le monde ne tournait pas rond, j'avais les mots mais pas la chanson. Tu sais l'amour de toutes les façons.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
Senaé en direct de la CAFEB Grande Couronne ici à Saint-Ouen-l'Aumône. Aujourd'hui, nous allons interviewer Semain Isolation. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter très rapidement, s'il vous plaît ?
Oui, bonjour. Écoutez, nous sommes l'entreprise Semain, une entreprise française et familiale depuis 1838. Je mets l'accent sur le fait que nous sommes pas seulement fabricants d'isolants, mais on a une gamme beaucoup plus large avec des enduits, des accessoires, des trappes de visite. Mais vous avez raison, on met l'accent sur nos isolants parce que c'est la dernière gamme qui vient d'être lancée il y a très peu de temps.
Quelle innovation technique présentez-vous sur ce salon ?
Il y a deux axes sur lesquels j'aimerais effectivement appuyer. C'est tout d'abord nos enduits biosourcés et éco-responsables, parce que nous sommes les premiers à lancer ce type d'enduit en enduit intérieur, que ce soit des enduits fins, enduits gros, enduits de rebouchage, ainsi que les enduits multifonctions. Et on a bien sûr notre gamme d'isolants qui vient d'arriver, étoffer notre gamme avec des enduits éco-responsables et biosourcés type Semaflex ou les enduits faits en coton.
Comment vous pouvez simplifier le quotidien justement des artisans sur le chantier ?
En leur apportant des conseils techniques et des avantages sur nos produits qui leur permet de gagner du temps sur la pose, l'application et aussi l'utilisation de leurs produits, que ce soit nos isolants avec une coupe plus simple et des produits moins volatiles, ou que ce soit nos enduits en pâte prêts à l'emploi qui leur permet d'avoir des produits déjà disponibles dès le lancement du chantier et redoublables frais dans frais.
Très bien, écoutez, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions et puis bonne fin de salon à vous.
Je vous remercie, bonne fin de salon à vous également. À très bientôt.
IDFM Radio, bien plus qu'une radio.
Nous sommes toujours au salon de la CAPEB Grande Couronne ici à Saint-Ouen-l'Aumône. Je suis en présence de Andy Régent, celui qui dirige la communication de APAS BTP. Comment accompagnez-vous le bien-être et la protection sociale des salariés du bâtiment ?
Merci de nous accueillir. On accompagne effectivement l'ensemble des salariés du bâtiment et des travaux publics au travers de trois pôles d'activité. Donc on a un pôle social avec des assistantes sociales qui viennent sur place ou qui sont à faire des rendez-vous dans nos locaux. On a une équipe OPRP pour l'orientation professionnelle et reclassement professionnel. Une aide juridique qui va accompagner dans le domaine du personnel les salariés du bâtiment. On a un pôle santé qui va aider les personnes sur la notion de santé, tout risque qui peuvent arriver sur les chantiers ou autres. Et on a un dernier pôle qui est loisirs et vacances qui va vous faire profiter les salariés du bâtiment sur les subventions vacances et sur la billetterie.
Est-ce que les problématiques de santé au travail, elles évoluent dans ce secteur-là ?
Oui, effectivement, ça évolue beaucoup. Donc du coup, on a nos professionnels et nos experts en la matière qui vont effectivement se former tout au long de l'année pour suivre les évolutions. Ils sont en lien avec des équipes et des partenaires type la PST qui vont pouvoir effectivement se mettre en relation et puis suivre nos salariés au mieux et pour les aider justement à essayer de trouver des solutions. Ouais.
Merci beaucoup à APAS BTP d'avoir répondu à nos questions et à très vite.
À très vite, merci à vous.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
Nous poursuivons notre immersion au cœur de ce salon de la CAPEB Grande Couronne qui se tient à Saint-Ouen-l'Aumône. Et à notre micro, Amadou Ndiaye, responsable de secteur, et William Duchiron, responsable de secteur pour la société Edilience. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Et merci de venir à notre micro. Alors, vous êtes présent sur ce salon, pour quelle raison ?
Alors, nous, Edilience, il faut savoir qu'on a un partenariat national avec la CAPEB depuis, je crois, environ 3 ans au national. Et on a décidé, nous, régionalement, avec notre équipe, de se diriger vers les CAPEB, notamment en Grande Couronne, pour développer un partenariat autour de l'enveloppe du bâtiment, de la rénovation énergétique. Aujourd'hui, la CAPEB, elle regroupe plusieurs adhérents de tous bords, des plombiers, des couvreurs, des entreprises générales. Et aujourd'hui, nous, ça nous permet de toucher un maximum d'entreprises qui ont également des valeurs communes, c'est-à-dire avancer vers la rénovation énergétique, qui est au cœur de l'actualité.
Absolument,
et,
oui.
Et avec mon collègue, aujourd'hui, on est présent sur ce salon pour présenter un peu notre offre, et notamment le photovoltaïque.
Oui.
Avec la tuile solaire, qui est un produit qui est encore très peu connu, mais très innovant.
Ah oui.
Et nous, l'idée, en fait, c'est de mettre en relation les couvreurs et les électriciens.
Mm-hmm.
Donc idéalement, ce serait de faire ce mariage entre ces deux professions pour venir intervenir chez le particulier.
Donc vous voulez dire qu'au lieu de mettre des panneaux solaires, on met des tuiles qui ont le même usage.
Voilà, c'est le même usage. Alors nous, on a une offre aujourd'hui qui regroupe un peu tout.
Oui.
Mais notre ADN aujourd'hui, en étant fabricant de tuiles, voilà, et leader français, c'est de proposer de la tuile solaire pour répondre aux enjeux, notamment au niveau des architectes bâtiments de France, des PLU, des villes qui ne veulent pas de panneaux. Et aujourd'hui, nous, on arrive à avoir l'esthétique avec la tuile solaire et la facilité de pose pour le couvreur, l'entreprise générale, qui va aller poser sur le toit.
C'est très innovant, j'imagine. Ouais. Ça existe depuis quand ?
En réalité, ça existe depuis 2002.
Ah, quand même.
Donc ça fait quand même quelques années. Alors, elle n'était pas sous la forme sur laquelle on la présente. Hein.
Ouais.
On a avancé avec le temps, avec les avancées, etc., en termes de puissance. Mais depuis 2002, Edilience, on est sur la tuile solaire. Et on essaye de... Bon, on l'a prescrit tous les jours. Comme je dis, on est présent partout en France. Et on essaie de la prescrire un peu partout, auprès des régions, localement. On a une équipe prescription qui est pas mal en amont auprès des architectes, des communautés de communes, qui poussent ce projet, qui aujourd'hui peut répondre à tous les besoins au niveau de la rénovation énergétique, au niveau aussi des PLU, des villes qui veulent quelque chose d'esthétique. Aujourd'hui, on arrive à répondre à ces enjeux-là.
Est-ce que c'est une... vous êtes unique dans ce domaine ?
Alors, on n'est pas forcément unique, mais aujourd'hui, en France, il y a très peu d'acteurs. Ouais, on reste le leader et il y a très peu d'acteurs qui fabriquent et qui proposent aussi ce genre de solution. Nous, aujourd'hui, Edilience, notre force, c'est qu'en étant très connu sur la tuile, on a cette image qui rassure le client. C'est important pour nous parce que même au niveau de nos garanties, on s'adapte à celle de nos tuiles qui est de 30 ans, pour la tuile solaire je parle. Donc aujourd'hui, nous, c'est vraiment de rassurer les clients. C'est-à-dire qu'on a des produits qui sont garantis, qui passent des avis techniques, qui sont sur liste verte. Donc auprès des assurances, on est top. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça. Et on est français. Voilà, parce qu'il existe par exemple Tesla qui le fait. Mais qui distribue uniquement aux États-Unis pour l'instant.
Bien
sûr. Peut-être un jour venir ici. Mmh. Aujourd'hui, nous, c'est une fabrication.
Vous êtes en tête.
Exactement. Bah,
écoutez, bravo pour cette activité. Alors, William Duchiron, puisqu'on parle de rénovation énergétique, de développement durable, ça nécessite des investissements importants. Est-ce que c'est le cas lorsque l'on s'équipe de tuiles Edilience?
Bah aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que changer une couverture sans changer de tuile, ça sert à rien. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, on en profite, les entreprises, on les accompagne pour qu'ils puissent changer une couverture pour le particulier, mais aussi refaire de leurs isolations, parce que la première déperdition au niveau des calories, c'est quand même le toit.
Oui.
À partir de ce moment-là, quand on fait une rénovation globale, on propose donc déjà des tuiles. Qui est l'enveloppe du bâtiment, qui a un aspect décoratif et d'étanchéité. On a aussi de l'étanchéité à l'air, parce qu'on fabrique aussi des écrans de sous-toiture. On travaille en partenariat avec des fabricants d'isolants. Donc on propose aussi des isolations. À partir de ce moment-là, on règle déjà un peu le problème des déperditions. Donc c'est un coût.
Oui.
Maintenant, il y a des aides de l'État. Et une couverture, une fois qu'on la refait, on ne la refait pas tous les 5 ans.
Et puis peut-être, on peut peut-être parler aussi de retour sur investissement, c'est-à-dire que c'est dans la durée.
C'est un investissement. Oui. Aujourd'hui, une tuile, on les garantit 30 ans, mais une tuile qui est bien posée, avec un bon isolant, ça dure plus que ça. On a retrouvé historiquement des tuiles qui dataient de 300 ans.
Ah oui.
En fait, la tuile terre cuite, c'est très vieux.
Oui, c'est un produit qui ne vieillit pas, quelque part.
Les premières tuiles romaines, les tegula, étaient fabriquées en Rome antique. On a retrouvé en Grèce, on a retrouvé un petit peu partout dans le monde, donc c'est un produit noble, un produit qui est issu de nos usines françaises et surtout de l'argile qui vient de chez nous. Mm-hmm. Donc là, on a une tuilerie qui est pas très loin, qui est dans l'Oise. Tout le monde connaît un peu les tuileries de Beauvais. Bon, bah voilà, on est connu et reconnu. C'est du local en fait.
Oui.
On en a un petit peu partout.
Mais alors, puisque donc c'est une tuile qui remplace le panneau photovoltaïque. Il y a, comme vous l'avez dit, de l'électricité. Est-ce que ça fait, du coup, appel à une main-d'œuvre plus qualifiée que les artisans avec lesquels vous travaillez auparavant ?
Alors, William. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que vous avez le couvreur qui, lui, va poser la tuile.
Oui.
Parce qu'il a la garantie décennale pour poser la tuile. Et après, vous avez, même au sein de la CAPEB, hein, des électriciens qui viennent, eux, viennent faire le raccordement.
C'est un travail en
collaboration. Ça veut dire que le couvreur, lui, garantit la décennale au niveau de la pose de la tuile. Et l'électricien, lui, vient faire le raccordement avec son cali PVELEC. Mmh. Donc, c'est vraiment une association entre deux corps d'État qui va faire l'alchimie de la couverture.
D'où le partenariat avec la CAPEB.
La CAPEB.
Voilà. Qui regroupe un peu une grande... Il y a pas mal d'adhérents qui touchent un peu à tout. Donc, idéalement, ce serait de faire rencontrer ces adhérents-là.
Oui, oui.
Et de créer...
Faire des pôles des écosystèmes.
Exactement. Mmh. Exactement.
Et vous sentez que ce produit est en train de prendre, si je peux dire.
Alors... Prendre, peut-être c'est un grand mot, mais aujourd'hui on pousse pour que ce soit le cas, parce qu'en France on a quand même pas mal de normes qui freinent un peu des fois les artisans. On a beaucoup avancé nous sur le sujet, on est rentré en partenariat avec des centres de formation, des assurances qui facilitent aussi l'adhésion au solaire, qui n'est pas évidente. Et surtout, on a un service qui permet d'accompagner toutes ces entreprises qui peuvent facilement se lancer dedans. Donc, c'est un travail de longue durée.
Oui, mais, c'est ça. D'information
aussi, de présenter le produit. Pour ça aussi qu'on est aussi un peu là. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ou qui avaient une vague idée. Mais là, on vient vraiment le présenter physiquement. Donc voilà, il y a encore un peu de travail. Ça prend tout doucement, mais
Il y a une vraie dynamique.
Voilà, c'est ça.
Merci infiniment, messieurs, d'être venus au micro d'IDFM Radio, et bon salon.
Merci.
Au revoir.
Merci beaucoup d'avoir été à notre écoute pour cette 6e édition placée sous le signe des rencontres, du partage et de l'engagement au service de l'artisanat et des entreprises du bâtiment. Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite de ce reportage et à la richesse des échanges. Merci à vous tous d'avoir été à notre écoute. Retrouvez cette émission en podcast sur le site de la radio idfm98.fr. Merci Francky pour la technique. Et si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. À très vite pour une nouvelle émission. Belle journée et bonne semaine.